I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We good?
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 388 du podcast Jean Actuel. La Mathie, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle, pour un nouveau débrief de la semaine NFL. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut à tous.
Et Grégory Richard est avec nous cette semaine. Bonjour Grégory.
Bonjour messieurs et bonjour à tous.
Les Steelers à la peine, les Ravens qui gagnent un match fou, les Eagles qui s'offrent les Saints. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et il y a beaucoup de S dans toutes ces phrases. Je vais y arriver, c'est toute la course au playoff aussi dans cette semaine 14. Le débrief, c'est parti.
Salut, c'est Laurent Duvernay-Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
Laurent Duvernay-Tardif, élu sportif canadien de l'année. D'ailleurs, je vous fais part de cette petite nouvelle pour son rôle notamment à la fois dans la victoire des Chiefs et dans la lutte contre la Covid, puisqu'il a séché la saison pour la bonne cause, celle de son boulot de médecin. Messieurs, on passe d'abord, avant de parler des Chiefs, aux Steelers. Bills 26, Steelers 15, deuxième défaite de suite pour les Steelers. L'attaque a été étouffée avec seulement 224 yards gagnés. La défense n'a pas réussi à contenir Stephon Diggs. Est-ce qu'on commence à paniquer pour Pittsburgh, Raphaël?
Écoute, on paniquait, c'est toujours pareil. Ça dépend quel objectif et ce qu'on imaginait pour eux, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Enfin, panique pas, ils seront en play-off, ils sont déjà en play-off, ils ont l'opportunité de poser souci grâce à leur défense à beaucoup d'équipes. Après, effectivement, on peut commencer à se dire quand même qu'en attaque, le play calling trouve pas forcément les bonnes solutions pour mettre tout le monde dans les bonnes conditions. On a quand même un jeu fait tout en passes courtes, beaucoup de screen pass, beaucoup de slant, pas forcément qui utilise pas forcément la vitesse de Claypool, de Deontay Johnson. Enfin voilà, on peut se poser des questions là-dessus quand même au niveau du play call. Donc bon, on peut s'inquiéter, j'ai envie de dire, sur la forme offensive depuis quelques semaines du côté de Pittsburgh.
Ils ont eu 7 drives de moins de 10 yards dans cette rencontre. Grégory, est-ce que toi, tu es inquiet pour cette attaque notamment?
Bah, forcément, je rejoins un petit peu ce qui avait été dit par Raph. C'est sûr qu'en effet, il y a une inconstance qui reste assez prégnante, je trouve, depuis quelques semaines. Je ne sais pas si, paradoxalement, le match de Thanksgiving qui a été reporté, on a l'impression que Baltimore, ça les a un peu reboostés derrière. Pittsburgh a... Bon, là, c'était un déplacement à Buffalo, c'était pas évident non plus. Mais ouais, on a l'impression que, je sais pas, ils sont quand même sur 3 matchs, hein, plus qu'en dents de scie, même s'ils ont pas déroulé sur toute leur rencontre cette saison. Mais ouais, offensivement, il y a quand même un certain déchet. Et puis sur troisième tentative, quand tu connais l'expérience d'un Ben Roethlisberger, te contenter d'un 1 sur 10, même si la défense des Bills a l'air d'être revenue à un niveau plus que correct depuis quelques temps, c'est sûr que ça a de quoi inquiéter dans l'optique des playoffs. La défense pourra pas toujours gommer les lacunes offensives s'il y en a au mois de janvier.
31e attaque au sol de la Ligue, 89,1 yards par match, 3,7 yards par course. Ils sont 31e là-dessus aussi. James Conner a 10 courses pour 18 yards. Ils n'ont pas vraiment de coureur numéro 1. Enfin, ils n'ont pas vraiment d'attaque au sol. C'est quand même un problème quand tu as un quarterback vétéran, peu mobile, qui serait blessé au pied d'ailleurs selon CBS et qui n'a pas l'air d'avoir un moral éclatant puisqu'il a expliqué au Pittsburgh Post-Gazette que s'il ne jouait pas bien, il fallait qu'il arrête. Donc, il a quand même toujours un pied vers la retraite, hein, Roethlisberger, plus que d'autres dans les déclarations.
Ouais, après, je sais que il y avait déjà eu un spectre de la retraite, pardon, il y a 2-3 ans de ça, je pense, après sa prestation, notamment, je me rappelle d'un match à 3 interceptions contre les Jaguars où ça avait commencé à être évoqué et où finalement, il était revenu. Après, c'est sûr qu'avec les blessures, peut-être que ça va peut-être faire piqûre de rappel où il va se dire, est-ce que le temps commence pas à me rattraper? Mais non, je te rejoins. C'est sûr que pour le coup, depuis le début de la saison, on peut pas lui mettre une responsabilité particulière, dire que c'est en raison de son âge, etc., que ça pose souci. Mais c'est vrai que c'est en effet problématique. On a tenté Benny Snell, on a tenté le rookie Anthony McFarland. Bon, pour un succès, plus ou moins efficace, quoi. Enfin, plus ou moins concret. Donc, c'est sûr qu'il va encore falloir trouver des solutions. Raph l'a dit, les Steelers, les playoffs, à mon avis, ça me paraît quand même plus que fait. Je sais pas si c'est fait officiellement,
mais c'est fait.
C'est fait officiellement, pardon. Mais, en tout cas, profiter au moins de ces 3 derniers matchs pour vraiment bien se roder offensivement et se remettre un petit peu en confiance au vu des dernières sorties.
Raphaël, il y a un moyen de se relancer offensivement? Tu vois des pistes parce qu'il fait froid, les playoffs arrivent. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore ajuster après 13 matchs?
Je pense que tu peux toujours un peu ajuster ton play calling en cours de saison sans le changer de A à Z, mais peut-être un peu plus de play action, peut-être qu'on voit pas forcément beaucoup de leur côté. Alors, vous me direz que pour que les play action soient efficaces, faut avoir peur de la menace au sol, ce qui est pas forcément le cas à l'heure actuelle des gens qui affrontent Pittsburgh. Bon, je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs à faire en attaque à ce niveau-là. Après, je me demande aussi si c'est pas une équipe qui commence un peu, alors, c'est pas forcément une excuse, mais une équipe qui commence un peu à tirer sur la corde dans le sens où ils en sont quand même à 3 matchs en 12 jours. Avec les reports ces dernières semaines. 3 matchs en 12 jours, leur bye week c'était en semaine 4 à cause des décalages, tout ça. Donc ils en sont à 10 matchs de suite dans un calendrier très très réduit, peu de temps de repos. C'est pour ça que je pense que avoir le siège numéro 1 en AFC leur ferait un bien, à mon avis, assez important pour s'éviter une grande lancée de 17 matchs à la suite pour aller au Super Bowl. Et ça se voit en défense, on commence à accumuler un peu les blessures du côté des Steelers qui étaient jusque-là plutôt épargnés par ça. Dupré il y a 2 semaines, Spillane la semaine dernière, ce match-là il y a des sorties par intermittence. Bon, je pense qu'il y a aussi un peu de ça qui commence à peser. C'est pas la seule raison, mais à mon avis c'est pas totalement à écarter sur le creux de la vague Steelers, c'est pas à écarter à mon sens.
T'as raison, et le truc c'est que la première place elle vient de leur échapper du coup avec cette défaite et il y en a plus qu'une cette année, ça va être dur d'aller la prendre maintenant à Kansas City. On parle beaucoup de l'attaque des Steelers, l'histoire de ce match c'est quand même aussi la défense des Bills qui pour le coup semble monter en puissance au fil de la saison. Eux c'est complètement l'inverse, ils sont sur la pente ascendante maintenant. Grégory.
Ouais, et puis alors ils nous ont sauvés quand même parce que c'est quand même un Sunday Night qui faisait un petit peu peur. Franchement, la première mi-temps c'est clairement vidéo gag. Quand on voit toutes les actions, les pertes de balles en cascade, l'attaque de Buffalo était pas spécialement hyper inspirée non plus sur ce match-là. Et c'est vrai qu'on a la sensation que le pick six notamment de Tyron Johnson réveille un petit peu tout le monde. Ils se disent, ah oui, merde, c'est vrai, il y a des caméras autour, il faut qu'on se réveille un peu. Mais je te rejoins. C'est sûr qu'il y a toujours ces points d'interrogation sur le run stop. C'est sûr que là, en l'occurrence, l'adversité est telle que c'est compliqué de vraiment savoir si tout est vraiment gommé ou si on peut être un peu plus rassuré dans l'optique du mois de janvier. Mais en tout cas, contre la passe, il continue de rassurer et ça continue d'être une formation qui peut être extrêmement dangereuse des deux côtés du ballon et donner vraiment du répondant en playoff, quoi.
tu l'as dit, c'est une interception qui les relance, ou en tout cas, c'est leur premier touchdown avant la mi-temps. Ça leur permet de mener 9-7. Et derrière, il y a deux touchdowns à la passe dans le troisième quart pour creuser l'écart et mener 23-7. Raphaël, cette défense, est, encore une fois, elle monte en puissance. Et là, pour le coup, ils sont dans le bon rythme, quoi. Ils arrivent sur les playoffs dans une bonne dynamique.
Ouais, elle monte en puissance, effectivement. Même si j'aurais tendance à rejoindre un peu Greg sur le fait que finalement, ce match-là contre les Steelers est peut-être pas le plus indicatif pour eux de leur vrai niveau, parce que tu rencontres une équipe qui jusque-là est un peu unidimensionnelle et qui en plus sort de plusieurs semaines où leurs receveurs multiplient les drops, où l'attaque patine. Donc je sais pas si c'est la prestation que je retiendrai particulièrement des Bills en défense, en tout cas.
Du coup, c'est inquiétant pour Pittsburgh, ce que tu dis, parce que quand on en est à dire, c'est pas une prestation significative pour la défense.
Je serais plus mesuré, disons. C'est que c'est une bonne prestation de la défense des Bills. Après, c'est pas encore une prestation où je me dis, ah ok, leur défense est revenue au niveau d'il y a un an quand ils étaient vraiment très très, très costauds. D'accord. Voilà, j'en attends encore un peu plus de leur part. Mais, et je trouve que sur ce match, on allait peut-être y venir, mais c'est quand même l'attaque aérienne aussi de Buffalo qui à un moment fait la différence.
Voilà, il y a 10 réceptions, 130 yards et un touchdown de Stephon Diggs qui se confirme quand même comme le transfert ou un des transferts réussis de l'année, parce que ça change tout dans le développement de Josh Allen.
Ouais, mais je crois que Brandon Bean, le general manager des Bills, a été re-signé il y a peu de temps, si je me trompe pas. On voit que c'est quand même une prise d'initiative, en effet, qui est couronné de succès. C'était quand même la pièce manquante. Il y avait des bons receveurs l'année dernière du côté de Buffalo, mais comme on le disait, peut-être pas des go-to guys, des joueurs vraiment capables de faire la différence en un contre un. Et Stephon Diggs apporte clairement cette plus-value là. Alors, il peut avoir le caractère, en effet, un peu compliqué en fonction des cas. Il faut voir si en playoff il pète tes plombs comme il avait fait l'année dernière sur le terrain de la Nouvelle-Orléans. Mais en attendant, voilà, quand il faut être clutch dans un match en prime time contre une équipe qui sont susceptibles de retrouver en playoff, il répond présent. Donc voilà, c'est à surveiller, mais il y en a pas beaucoup, je pense, qui vont réussir à mettre autant en difficulté ce backfield défensif des Steelers que ce qu'a fait Diggs en l'occurrence ce dimanche.
Très impressionnant aussi la manière dont ils ont mangé les 7 dernières minutes de chrono, d'ailleurs. On parlait de playoffs, ça c'est quand même une très très grosse performance. Donc une équipe des Bills qui signe une des belles prestations de la semaine, et on l'a dit, qui pousse Pittsburgh en dehors de la première place et qui leur donne une fin de saison très très compliquée. Toujours dans l'AFC Nord, on parlait des Steelers, il y avait deux autres équipes qui jouaient l'une contre l'autre, Browns 42, Ravens 47, un match fou qui avait lieu dans la nuit de lundi à mardi. Lamar Jackson en mode Superman pour aller chercher un touchdown sur la quatrième tentative en fin de match. Après l'égalisation de Cleveland, 4 passes pour mettre son kicker en position de field goal. Et le field goal de la gagne de 55 yards pour Justin Tucker, le seul kicker fiable de toute la NFL. J'ai souvent reproché à Lamar Jackson de ne pas être fiable dans les fins de match, de ne pas avoir de drive référence où il va chercher à la passe. Là, il a sorti une grosse action et un gros drive. Donc, je m'incline, et ça, c'est une belle victoire référence pour les relancer vers les playoffs, là, pour le coup, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal avec le Covid et plein de choses ces dernières semaines. Là, ça remet un peu tout le monde en ordre de bataille. Et finalement, c'est l'équipe des Ravens qui a des sacrés atouts, non ?
Oui, très clairement. Alors, ils ont des sérieux atouts. En tout cas, ils reviennent à des fondamentaux qui rassurent un peu plus.
Non, alors, je me suis planté, vous n'avez pas l'air rassuré.
Alors, c'est pas que je suis pas rassuré. C'est encore une fois, dans mes pronostics, j'avais mis les Ravens vainqueurs à Cleveland. C'est aussi parce que je me doutais qu'il y allait avoir ce petit sursaut d'orgueil de la part des joueurs de John Harbaugh. Et en effet, il y avait ce petit syndrome de est-ce que Cleveland va pas avoir un petit complexe. Clairement, ils en ont pas eu.
Non.
Et ils ont mis en difficulté aussi cette défense de Baltimore. C'est aussi ce qui me fait un petit peu tiquer le fait qu'il y ait du bon, mais aussi du moins bon dans cette équipe des Ravens. Toujours autant de pénalités en l'occurrence. Mais si on reste sur l'attaque, oui, en effet, il y a ce drive référence peut-être enfin pour Lamar Jackson en fin de match. Même si c'est pas lui qui marque les points décisifs, mais en tout cas, il permet clairement à son équipe de les marquer. Mais voilà, on est revenu à des fondamentaux. On s'embête plus à se dire, on va essayer de voir si Lamar peut lancer le ballon. On court. Et ça fonctionne, et ça a enquiquiné Cleveland pendant une bonne partie de la rencontre, notamment en fin de match, puisque même si Cleveland est quand même en passe de s'imposer dans ce match, Baltimore a quand même mené un gros, gros moment dans cette partie.
Oui, ils ont mené 2 fois de 14 points. Il faut reconnaître à Cleveland qu'ils se sont toujours accrochés, mais ils ont eu à s'accrocher. Tu l'as dit, après, en effet, ils sont revenus aux fondamentaux. 231 yards au sol avec 32 courses contre 21 passes pour 154 yards. Donc, il y a un vrai déséquilibre. C'est du sol, du sol, du sol. Raphaël, c'est pour ça que tu souriais aussi quand on disait qu'ils s'étaient relancés.
Ouais, c'est un peu pour ça. J'entends le côté Lamar Jackson réalise un comeback, on va dire, dans le quatrième quart-temps. En plus, vraiment un comeback puisqu'il est sorti à un moment du match sur une ou deux séries pour revenir sur une 4e et 5 un peu dantesque où Marquise Brown se retrouve tout seul. On ne sait pas trop comment. Puis, bref, c'est vrai que c'est ce côté-là, comeback, est indéniable. Après, comme l'a dit Greg, ils reviennent à des fondamentaux. On savait depuis l'an dernier qu'ils pouvaient courir très bien toute cette équipe. Et là, ils ont enfin retrouvé la clé à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on attendait des Ravens cette année, c'était de passer un cap à la passe. Et ça ne l'est pas encore. Et sur ce match, on ne peut pas dire que ce soit le cas parce que tu as un Marquise Brown qui a fait des drops assez immondes. T'as Lamar
Jackson. On ne voit pas du match. Hein. Avant son TD, il est quasiment inexistant. Hein.
C'est ça. Tu as Lamar Jackson qui... Bon, a fait 2-3 passes un peu in extremis qui passent, mais d'autres en profondeur complètement ratées. Donc, moi, j'attendais un plus à ce niveau-là. Et pour le moment, tant qu'ils le feront pas, tant qu'ils le montreront pas, après, comme tu dis, si on pense que les Steelers ont encore 3 matchs pour relancer l'attaque, on peut aussi penser que Baltimore peut, enfin, tout le monde a encore un peu de temps pour s'échauffer. Mais je suis pas. C'est une victoire importante pour la course au play-off. Après, pas un statement à mon sens, quoi.
Ok, pas plus convaincu que ça. Et alors, pas plus convaincu que ça par la défense non plus, parce que du coup, ça leur arrive pas souvent d'en prendre 42 avec plus de 400 yards, hein, a priori, puisque j'en vois 343 à la passe, 138 au sol, donc plus de 450. Oui, j'ai fait L. mais voilà, a priori, est-ce que ça, c'est inquiétant aussi? Parce qu'il y a des bonnes prestations de certains joueurs, des Patrick Queen, des joueurs jeunes comme ça, mais ils prennent, le fait est qu'ils prennent 42 pions.
T'as mis le doigt sur quelque chose, c'est que oui, en effet, il y a des bons joueurs, mais ça reste un effectif qui est paradoxalement un peu jeune et qui a tendance à pêcher un petit peu dans cette j'en parlais tout à l'heure avec les flags notamment. Voilà, il y a des erreurs mentales qui sont quand même assez inhabituelles quand on connaît les Ravens. Alors, je me cache derrière la jeunesse, il n'y a pas que, hein. Je sais qu'il y a une pénalité notamment pour Jimmy Smith à un moment donné qui est censé être un des 4 du backfield. Il y a des absences, on le répète, sur les lignes, ils sont pas forcément aidés. Mais en attendant, je veux dire, il y a quand même des joueurs qui sont quand même, il y a un cadre, il y a une atmosphère, si je peux parler ainsi, où tu te dis, ça reste Baltimore et normalement, il y a de quoi se faire respecter sans avoir besoin de faire des fautes un petit peu stupides. Mais en l'occurrence, c'est sûr que cette jeunesse, malheureusement, leur coûte un petit peu cher sur certains matchs. Mais après, pour le coup, c'est vrai qu'on peut taper sur la défense de Baltimore. J'ai quand même été assez bluffé par cette attaque de Cleveland.
Alors voilà, j'allais demander, accrochez-vous pour la formulation de la question, est-ce que cette défaite des Browns est plus encourageante encore que leur victoire?
Que la victoire de Baltimore, tu veux dire?
Non, que leur précédente victoire. Parce que quand ils gagnaient ces derniers temps, on disait oui, mais c'était contre des équipes faibles. Là, ils perdent contre une grosse équipe, mais en faisant un gros match.
Moi j'ai envie de répondre non. Moi j'attendais quand même à ce qu'ils arrivent enfin à battre Steelers, Ravens, qu'ils arrivent à montrer un peu à bomber le torse et à dire on est la deuxième équipe, voire pourquoi pas même un des futurs cadres de cette division. Je trouve que du coup, Greg l'a un peu mentionné tout à l'heure, il y a peut-être encore ce côté un peu petit frère pas encore prêt qui est remis à sa place. Alors même si il y a 40 points, mais le fait est qu'ils le perdent encore une fois, malheureusement. Et ça, c'est moi j'aurais était plus convaincu par une victoire 21-10 que par une défaite 45-2, tu vois. Enfin, 45-42, je sais plus le score, pardon. Alors, non, 47-42.
J'essaie de voir le positif, mais sur le premier match de la saison, ils avaient pris un 38-6 contre les Ravens, donc il y a déjà une progression.
Ça. Oui, non, mais ça, ils ont progressé au cours de la saison, ça n'a aucun doute, ok.
Non, mais alors, moi, c'est surtout que, honnêtement, alors oui, c'est sûr que si on regarde d'un point de vue résultat, on se dit ouais, c'est dommage et tout. Bon, au passage, il y a quand même, il me semble qu'il y a Cody Parkey qui rate quelques coups de pied. Je sais que c'était le week-end des kickers, un énième week-end des kickers.
Ah ouais, mais là.
Mais bon, ça malheureusement, ça coûte un petit peu cher à l'arrivée. Maintenant, non, moi ce que je trouve intéressant du côté de cette équipe de Cleveland, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que oui, en effet, on pouvait se dire il y avait en effet ce petit syndrome, enfin ce syndrome du petit frère, etc. Sauf que ils ont vraiment pris ça à bras le corps en se disant bah non, justement, on va les montrer, on va poser nos attributs sur la table et on va montrer que voilà, on est là pour être de nouveau dominant, justement, ce que t'expliquais. Et je trouve que j'avais souvent tendance à les caricaturer dans le côté voilà, jeu un peu bourrin avec du jeu au sol. Et je trouve que depuis quelques semaines, on responsabilise vraiment Baker Mayfield. Alors, manque de bol, il se fait intercepter, ce qui lui était pas arrivé depuis un petit moment ces dernières semaines. Mais en l'occurrence, c'est voilà, on lui met un peu plus de responsabilité sur les épaules et on voit que voilà, en face, c'est quand même Baltimore, quoi. Je veux dire, il joue pas la pire défense de la ligue. Et c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Et soit dit en passant, c'est pas pour faire du bashing gratuit, je trouve que depuis la blessure d'Odell Beckham, il y a quand même un peu plus d'automatisme dans le jeu aérien.
Je me disais aussi qu'ils avaient vraiment plus besoin d'Odell Beckham et que s'ils pouvaient récupérer quelque chose pour lui pendant l'intersaison, ça pourrait être intéressant. Mayfield, tu l'as dit, intercepté une fois, mais il a lancé 47 ballons, donc c'est vrai que c'est pas infamant d'être intercepté une fois sur 47 face à Baltimore. Il fait un 28 sur 47, 343 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Et ouais, moi j'ai bien aimé le fait que ce soit quand même agressif en fin de match, qu'ils aient été menés deux fois de 14 points et qu'ils reviennent à chaque fois. Et ils se sont pas désintégrés à une époque où ils peut-être désintégrés. Donc évidemment, ça aurait été mieux qu'ils gagnent et qu'ils avancent. Après, à 9-4, ils ont toujours leur destin entre les mains. Ils jouent Giants et Jets dans la foulée avec Steelers en fin de saison.
Oui, puis comme le disait Raph, c'est vrai que ce qui est un peu paradoxal, justement, oui et non, c'est que il y a ce côté où justement ils n'ont pas été assez gestionnaires. Ce qu'ont fait les Bills, par exemple, ce que tu mentionnais pour les Bills tout à l'heure, ils n'ont pas su le faire. Alors, c'est sûr qu'ils étaient menés au score, mais on s'est retrouvé un petit peu dans le même scénario que Todd Gurley contre Détroit, c'est-à-dire qu'on a un Kareem Hunt qui veut casser le plaquage et qui, bon, permet à son équipe de mener. Mais voilà, derrière, il y a quand même une grosse minute au chrono et même avec une équipe qui peut avoir tendance à courir beaucoup et à laisser couler le chrono, ça coûtait un petit peu cher à ce niveau-là.
Bon, je disais que les Browns, je vais y arriver, avaient leur destin en main. Les Ravens, eux, jouent les Jaguars, les Giants et les Bengals. Donc, clairement, ils ont quand même une chance d'aligner les trois. Hein.
C'est pour ça que c'est aussi un peu dommage quand même la défaite de Cleveland, c'est que c'est un vrai moyen de mettre l'adversaire de division la tête dans le seau en leur infligeant une défaite qui les oblige à vraiment ne pas se manquer du tout. Quoi.
Mathématiquement, il est enterré quasiment, ouais, en effet, s'il gagne.
J'ai réussi de façon à Cleveland, donc je chipote, on va dire.
On finit les affiches de la semaine avec Eagles 24, Saints 21, la grosse surprise de la semaine. Premier match pour Jalen Hurts et première victoire contre les Saints, s'il vous plaît. Hurts termine à 17 sur 30, 167 yards, un touchdown et 106 yards au sol. Est-ce que vous êtes convaincu par Jalen Hurts, le nouveau phénomène de Philadelphie qui vient de mettre à la retraite Carson Wentz? Raphaël.
Non, je dirais pas jusque là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il apporte plus de vie et de dynamique à cette équipe qui avait l'air vraiment de couler semaine après semaine avec Carson Wentz en quarterback. Là, il y a une stat qui trompe pas sur l'ensemble des snaps sur lesquels il était sous pression. Il a pas perdu de yards. Il en a fait gagner à son équipe en réussissant à être mobile, en se débarrassant vite du ballon, en évitant les sacks, ce qui est un des gros problèmes de Carson Wentz ces dernières semaines, qui mettait trop de temps à lancer et du coup encaissait beaucoup trop de sacks. Donc rien que pour ce côté-là, forcément, il apporte quelque chose à cette équipe, même si ça reste pas parfait, que il y a encore des bon voilà. Après, on est sur un rookie lancé comme ça en plein milieu de saison, donc qui s'adapte et qui fait ce qu'il peut aussi. Hein. Mais
forcément, c'est du moment en plus.
Ouais, c'est ça. En plus, avec une défense des Saints qui était vraiment jusque-là en grande forme, donc faut continuer avec lui jusqu'à la fin de saison. Après, à Philadelphie, de voir ce qu'ils en font, quoi.
Mais moi, je suis comme toi, je suis effaré par le changement de ton dans les tranchées, en fait, de cette équipe de Philadelphie, parce qu'ils ont gagné ce match dans les tranchées contre les Saints, qui étaient supérieurs à eux. Ils prennent pas un seul sac. Et en plus, en fait, la dimension coureur de Hurts libère toute l'attaque, en fait, parce que Miles Sanders gagne 115 yards au sol. La ligne protège mieux. Enfin, ouais, ils se sont réveillés. Ils se sont complètement réveillés. Greg, je sais pas si tu as vu la même chose.
Oui, Raph a globalement tout dit, notamment sur le... sur ce qu'apportait notamment sur la plus-value de Jalen Hurts par rapport à Carson Wentz. Si je caricature un peu, je te dirais qu'il nous a fait du Taysom Hill, mais c'est pas le même style en l'occurrence en termes de mobilité. Mais oui, non, en tout cas, c'est à ce niveau-là en tout cas qu'il a permis à Philadelphie en effet d'avoir un peu plus de solutions d'un point de vue offensif. Après, il y a beaucoup de choses qui ont bien été du côté des Eagles en attaque et en défense. Hein. Je ne sais pas si tu as enchaîné là-dessus. En défense, ils leur ont fait vraiment mal, mais je trouve que c'est quand même un match que les Saints, sur lequel les Saints sont quand même passés pas mal à côté.
Oui, Taysom Hill retombe un peu sur terre quand même après 3 victoires. Il perd un fumble, son 10e de la saison. Il est intercepté une fois, donc ça fait 2 ballons perdus au total. Il pouvait repasser devant. Le fumble leur coûte un touchdown potentiel alors qu'ils pouvaient repasser devant. Derrière, ils prennent le touchdown et 10 points de retard. Donc là, pour le coup, c'est Raphaël qui marque des points dans la lutte pour le poste de quarterback des Saints où il voulait voir autre chose que Taysom Hill. Je pense que tu vas te réjouir du retour de Drew Brees.
Ah bah je pense que n'importe quel fan de NFL ne peut que se réjouir du retour de Drew Brees à ce niveau-là. Mais non, bah écoute, après c'est ce qu'on a dit. Enfin, c'est ce que je pensais ces dernières semaines. C'est pas vraiment un quarterback établi. C'est compliqué. Là, il a quand même mis 3 cartons quasiment à vraiment se lancer au niveau du jeu aérien. Et même à la fin, il loupait des joueurs ouverts de manière assez évidente. Bon, Sean Payton a montré qu'il pouvait gagner avec lui. Il a réussi aux 3/4, j'ai envie de dire, son pari. Bon, passons à la suite offensivement. Voilà.
Ouais, ils ont pris 8 pénalités aussi dans ce match. L'expérience Taysom Hill donc touche probablement à sa fin. Alors on sait pas encore si c'est pas sûr qu'il revienne d'ailleurs dès le prochain match de Drew Brees parce qu'ils attendent qu'il soit à 100%. Donc on fera peut-être le bilan la prochaine fois d'ailleurs de l'expérience.
Ouais, après ils sont à 3-1. Après c'est pas spécialement sur lui que j'aurais tapé sur ce match-là. Honnêtement, mais on parlait des tranchées tout à l'heure. La ligne offensive a quand même beaucoup souffert. J'ai pas vu la ligne des Saints souffrir autant face aux Eagles qui se sont pas mal fait plaisir, hein, notamment Hargrave et surtout Josh White qui finissent tous deux à deux sacs. Et puis le run stop qui était une de leurs forces habituellement, je crois avoir vu passer le fait qu'ils avaient jamais autorisé un seul joueur à plus de 100 yards sur plus de 50 matchs de suite. Là, il y en a deux quoi. Donc encore une fois, c'est pas d'évaluer ce qu'ont fait les Eagles en face. Hein. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé un peu trop la fleur au fusil? J'ai vu un match vraiment très décevant de la part de Marshon Lattimore, qui a été vraiment aux fraises, qui a concédé justement des pénalités. Et ils peuvent pas être à bloc toutes les semaines, on est d'accord. Il y a des playoffs à préparer et en effet, ils ont montré, je pense notamment, alors sur ces références à Tampa, que il fallait compter sur eux de toute façon sur des grands rendez-vous. Mais c'est vrai que sur ce match-là, même si Jalen Hurts a été plus que solide et que la défense des Eagles a bien répondu présent et a étouffé les Saints en première mi-temps. Bon, c'est quand même une petite claque, on va dire, pour les remettre un petit peu dans le bon sens. Et si ça peut en plus coïncider avec le retour de Drew Brees, je pense que ce sera pas une mauvaise chose pour la Nouvelle-Orléans.
On l'a dit, hein, de toute façon, ils perdent aussi dans les tranchées ce match-là. C'est une défaite un peu plus globale. On fait une petite pause et on enchaîne avec les autres matchs de la semaine.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Il est important ce jingle pour réveiller les auditeurs qu'on a perdus éventuellement pendant la première partie. Il est capital. Merci à Kidman pour ce jingle. Dolphins 23, Chiefs 33. Patrick Mahomes a lancé 3 interceptions. Il a été sacké 3 fois. Les Chiefs ont perdu 4 ballons. Ils ont été menés 10-0. Ils ont pris 17 points dans le premier quart-temps. Mais ils ont marqué 30 points de suite au milieu de tout ça. Nouvelle victoire. Greg, comment on les bat? Parce que nous, on ne va plus parler. On est convaincus. On l'a déjà dit plein de fois. Greg, est-ce que tu crois encore qu'on peut les battre?
Bah écoute, oui, je crois qu'on peut encore les battre. Encore une fois, tu as donné les stats. C'est sûr qu'il y a toujours cette capacité indéniable à pouvoir accélérer en toutes circonstances. Il y a un début de deuxième mi-temps, notamment l'interception de Tyrann Mathieu fait beaucoup de bien parce que ça leur permet de marquer 2 touchdowns quasi simultanés. En plus, il y a le retour de coup de pied. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de secteurs où ils sont difficiles à prendre. Et encore une fois, je ne suis pas demeuré, je continue de penser que Kansas City est largement favori cette saison.
Mais c'est pas ces arguments-là où j'ai vu une équipe, une défense de Miami appliquée, mais qui, bon, reste quand même un peu short quand même, hein. Ça reste une équipe globalement jeune. Faut pas non plus le perdre de vue. Là, ça a été un petit peu court pour assurer sur quatre cartons contre Kansas City. Je le répète, on l'a vu l'année dernière en playoff. On sait que Kansas City, malgré le retard à l'allumage, peut éventuellement se réveiller. Si un jour, ça passe pas, eh ben, ça passera pas. Mais encore une fois, je dis juste que tout a pas été rassurant sur ce match-là. Et voilà, après, la réaction est habituelle du côté de cette équipe de Kansas City. Malgré trois interceptions, Mahomes se réveille quand il faut. Et c'est de bonne augure pour la suite.
Moi, je sais plus quoi lui dire, Raphaël.
Qu'est-ce non, qu'il faut non, mais qu'on après...
dise pour le convaincre?
Non, mais après, là où il a raison, c'est qu'effectivement, n'importe qui peut perdre sur un match. Ça, je pense bah, qu'on est.
Non, mais si vous me dites qu'il y a 100% d'éléments rassurants sur ce match-là, j'ai du mal à vous croire.
Non, mais
bah,
tu vois.
Mais après, c'est une conception. Enfin, bah, c'est une vision, c'est une conception d'analyse. Mais pour moi, il y a 100% d'éléments rassurants parce que même en étant au fond du trou, mené 10-0 avec Mahomes qui lance 3 interceptions, les mecs mettent 30 points d'un coup à une équipe de Miami qui sert
d'un coup, calmons-nous,
qui défense.
Ils
enchaînent
30 points sur 2 cartons.
Bah ouais.
Ouais,
ils mettent à Miami un 28-0, je crois, ou un 30-0 à un moment.
Ils mettent un 30-0.
30-0 à Miami, qui est une équipe certes jeune en défense, mais qui malgré tout, malgré cette jeunesse, est quand même une défense largement top 10 cette saison, pas loin à mon sens de tutoyer le top 5 grâce à son backfield défensif. On l'a encore vu, un Xavier Howard excellent. Et ben malgré ça, les mecs font cette prestation-là. Donc moi, j'ai presque envie de dire, bah si, en fait, je trouve ça 100% rassurant sur leur état de force, en fait.
Moi, je suis comme et Raphaël. Bon. Si tu gagnes en lançant 3 interceptions, en étant mené 10-0, enfin, du coup, ouais, moi, je trouve ça rassurant. Les mecs, il peut rien leur arriver. Ils peuvent accélérer quand ils veulent. Et en fait, évidemment, tout le monde peut perdre sur un match. Mais c'est juste qu'il va falloir faire un match parfait sur
ah oui, mais
minutes,
ça, mais moi c'est tout ce que je dis. Encore une fois, je le dis et je le répète. Le but du jeu, c'est pas de dire bêtement et méchamment, attention, Kansas City peut perdre sur un match. N'importe quelle équipe NFL peut perdre sur un match. Mais il y a toujours ce truc de, ouais, les mecs trop faciles. Ouais, les mecs, les doigts dans le nez. Et après, on va se retrouver en playoff avec du Andy Reid bashing où on va dire, ouais, il a pas donné le ballon à son running back.
Non.
Il a pas fait ceci, il a pas fait cela. Tu vois, c'est un peu le même.
Je suis pas d'accord, Greg. Pas trop facile. C'est-à-dire que c'est pas les Patriots de 2007, par exemple, qui roulaient sur tout le monde et qui ont eu des problèmes.
Bah, on en est pas loin si je vous entends.
Non. Les Patriots de 2007 sont pas accrochés et ils se retrouvent dans la merde quand ils sont accrochés. Là, les mecs, les Chiefs, et on l'a vu en playoff l'an dernier, ils sont menés dans tous les matchs. Et ils claquent des 20 ou des 30 points de suite de temps en temps pour repasser devant à chaque fois. Donc, et le truc qui est rassurant, c'est qu'ils peuvent repasser devant tout le temps, même quand ils sont accrochés.
Mais ça, on est d'accord. Encore une fois, ils l'ont montré pendant toutes les playoffs l'année dernière. Ça, on le découvre pas. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je le découvre pas. Mais il y a encore des, c'est pas ce match-là, malgré l'interception notamment de Tyrann Mathieu qui me rassure à 100%, notamment sur la défense. Il y a encore, j'exagère un peu, mais sur des matchs où ils sont un tant soit peu bousculés, je crois qu'il y a 8 pénalités sur ce match-là. Il me semble que contre Carolina, c'était à peu près le même scénario. Encore une fois, c'est des éléments qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais je suis d'accord avec vous. N'importe qui peut perdre sur un match si tout ne se passe pas comme prévu ou quoi que ce soit. Voilà. Mais Kansas City a le moins de chances que ça lui arrive de par ce qu'il démontre depuis le début de la saison. Mais moi, c'est mon seul propos. C'est que tout n'est pas rassurant de bout en bout, mais dans aucune équipe. C'est pour ça que je précise le côté 100%. C'est que... Quand je vous entends, c'est peut-être pas vos propos, mais en tout cas, quand je vous entends, vous dites « Ah, Kansas City, quand même, t'es un peu dur, ils éclatent tout le monde. » Oui, mais en attendant, faut pas oublier de mettre en avant des points qui pourraient éventuellement être problématiques en playoff et qu'il faut pas négliger.
Évidemment. Vas-y, Raphaël.
Non, on dit pas ça, mais ils éclatent pas tout le monde. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est la seule équipe depuis le début de la saison qui, week-end après week-end, montre qu'ils sont capables de mettre la tête dans le seau à l'adversaire. Absolument tout le temps. Dans chacun de leurs matchs, ils ont une période où ils enchaînent attaque, défense, et à l'heure actuelle, c'est la seule équipe que j'ai vu faire ça chaque week-end. Et que du coup, en miroir, j'ai envie de dire, pour les battre, il faut une équipe qui soit parfaite 60 minutes. Et à l'heure actuelle, j'ai pas vu une seule équipe de la ligue être parfaite 60 minutes cette saison, sauf peut-être aller Tampa Bay contre Green Bay et les Saints contre Tampa Bay aussi. Mais voilà, c'est un match par-ci par-là d'une équipe. Et pour le moment, je vois aucune équipe qui a une une telle constance dans son jeu que je me dis, ah, eux, ils sont capables de proposer aux Chiefs 60 minutes entières. Voilà.
Et pour citer
Tampa peut-être que la magie des playoffs donnera ça. Hein.
Mais pour citer Tampa Bay, Raphaël, il y a aussi ce truc des Chiefs, c'est que les mecs sont tellement forts quand même que tu peux comprendre que des fois, ils aient aussi des baisses de niveau parce qu'ils ne peuvent pas être à bloc tout le temps. Quand ils ont joué Tampa Bay et qu'ils sont arrivés concentrés minute 1, ils leur collent 17-0 dans le premier quart et c'est fini. Hein. Donc, il y a aussi ça. C'est que si en plus, en playoffs, cette année, ils arrivent un peu plus concentrés que l'an dernier et qu'ils ne prennent pas des éclats au début, ils peuvent pour le coup rouler sur des équipes. Mais après, voilà, ils ont un niveau stratosphérique sur des courtes séquences parce que c'est peut-être pas tenable 60 minutes non plus. Hein. Ça, c'est autre chose aussi. C'est pas la même machine de rythme que pouvaient être les Saints ou les Patriots à une époque. Donc, ils ont aussi des éclats beaucoup plus hauts, mais ils peuvent pas tenir ce rythme-là, peut-être 60 minutes. Bon, on parle beaucoup des Chiefs encore. Tu as Tagovailoa, 28 sur 48, 316 yards. Deux touchdowns, une interception. Moi, je fais mon mea culpa. J'avais dit qu'ils auraient peut-être dû faire jouer Fitzpatrick sur la fin d'année. En effet, ils ont raison de faire jouer Tagovailoa. Bon, évidemment, il peut pas prendre, enfin, il peut pas suivre dans un match comme ça. Il fait pas le break avant la pause. Ils prennent un safety en deuxième mi-temps. Il y a des choses, mais là, pour le coup, c'est un rookie. On peut pas lui reprocher ça dans un match de ce niveau-là, je suppose.
Non, franchement, voilà, faut continuer de voir ce que tu arrives à obtenir avec lui. Ce qui me fait un peu peur pour les Dolphins, c'est que ça risque d'être au détriment d'une qualification en playoff parce que, bon, avec les dernières semaines, et là, forcément, le fait de jouer le cadre dans la conférence, ça les met un petit peu en retard par rapport à d'autres formations. Après, oui, en tout cas, si ça peut leur permettre de reculer, entre guillemets, d'un pas pour avancer de 2 ou 3 dès l'année prochaine, pourquoi pas.
Après, ils jouent Patriots, Raiders, Bills, donc c'est plutôt à leur portée, hein, les 3 derniers matchs, pour le coup.
Ouais. c'est du 50, enfin, ouais.
Oui, pardon.
50-50, hein, quand même.
Bah, Patriots, Raiders, quand même, ils sont au-dessus en ce moment.
Bah, en ce moment, ouais.
Ça peut aller vite, hein.
Je t'avoue, ça fait 0-3, ça fait 3-0 comme 0-3, je serais pas étonné.
Ça marche. Ouais. Raiders, justement, 27, Colts 44. C'est comme ça que semblent s'éteindre les espoirs de playoff des Raiders. Pour le coup, ils sont pas mathématiquement éliminés, mais maintenant, ils sont en très, très mauvaise posture. Paul Gunter, le coordinateur défensif, a été viré après ce match. Ils ont pris plus de 450 yards sur le nez, 150 yards pour Jonathan Taylor, notamment au sol. Philippe Rivers était dans un fauteuil, il a pas pris un seul sac. Vegas n'arrive pas à ralentir la chute qui est précipitée par la défense. Clairement, maintenant, ils ont viré leur coordinateur. C'était le bouc émissaire. Mais ils ont, là, j'ai envie de dire, on peut presque se tourner vers l'intersaison. C'est-à-dire que là, c'est leur axe de progrès pour l'intersaison. Tu ne gagnes pas en prenant 44. Et puis, c'est aussi simple que ça, non ?
Ouais, après, ils n'ont pas… Bah, la défense, de toute façon, depuis le début de la saison, alors, c'est sûr, ce qui saute le plus aux yeux, notamment, c'est d'un point de vue pass rush. Ou hormis Max Crosby, ils ont été extrêmement décevants depuis le début de la saison. Mais c'est vrai, quand on y regarde de plus près, oui, malheureusement, sur toutes les lignes, c'est problématique. Le poste de linebacker a été extrêmement irrégulier depuis le début de la saison. Et là, comme tu l'as dit, ils sont encore ouvrir par le jeu au sol des Colts. Et puis sur le backfield, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu, comment dire, qui se laissent aller à quelques fantaisies, quoi, des Joyner, des Abrams, ce genre de joueurs.
Bon, disons que leurs drafts n'ont pas été des grandes réussites sur les defensive backs.
Ouais, voilà. Après, en plus, sur ce match-là, bon, c'est, alors, pour le coup, voilà, là, c'est là où aussi tu dis l'attaque des Raiders doit limite être parfaite, quoi, parce que, malheureusement, en l'occurrence, de l'autre côté, il y a 2 interceptions pour Carr et, il y a notamment un fumble. Donc, c'est sûr que tout ça, mis bout à bout, bon, t'exposes encore plus ta défense qui est pas terrible.
Vraiment, ouais, à la décharge de l'attaque des Raiders, les Colts sont marqués sur 7 de leurs 8 séries offensives. Donc, à partir de là, ça te laisse très peu de marge d'erreur quand même.
C'est ça. Bah, y a quand même un pick six, par exemple, dans le lot, quoi. C'est ce que je veux dire.
Oui, en plus.
Après, ça n'exclut pas le fait que tu prennes plus d'une trentaine de points contre une attaque qui n'est pas non plus une des plus excitantes de l'année, même si elle performe correctement depuis le début de la saison.
Ouais.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Raphaël, plutôt rassuré par l'attaque des Colts ou la défense, parce qu'elle a quand même fait aussi un boulot correct avec un Kenny Moore qui a réussi une interception complètement folle. Voilà, il n'y a pas de gros pass rush, mais c'est déjà ça et ces Colts ont l'air plutôt solides en ce moment.
C'est plus l'attaque sur ce match qui m'a fait plaisir. J'ai notamment trouvé un Frank Reich bien plus inspiré sur troisième tentative et en red zone qui avait été un peu le frein, le défaut, on va dire, de cette attaque des Colts depuis le début de saison. Là, ils ont été quand même bien plus convaincants dans ce domaine-là. Peut-être que le retour en forme de T.Y. Hilton fait aussi du bien. Le fait qu'ils arrivent enfin à se trouver avec Philip Rivers depuis 2-3 semaines n'est sans doute pas un hasard dans les meilleures performances offensives des Colts. Le retour de Castonzo sur la ligne offensive aussi, évidemment. Voilà. C'est ce qu'on avait dit aussi, il me semble, hein, au cours de l'année. C'est un peu le scénario parfait pour les Colts, ce match-là, avec vraiment une domination de leur ligne offensive qui leur permet d'ouvrir ces brèches-là pour Jonathan Taylor et de mettre Rivers dans les meilleures conditions possibles sans avoir à le forcer à essayer d'étirer les jeux. Voilà, donc tant mieux pour eux. Et comme vous l'avez dit, de toute façon, ça passe face à une... On va aussi en demander plus parce que ça passe face à une défense. Grégory est gentil en disant que le backfield a des moments fantaisistes. Je n'irai pas sur le mot fantaisiste, j'irai vers autre chose de plus négatif, mais...
On passe aux Jaguars, 10 Titans, 31, 215 yards et 2 touchdowns au sol pour Derrick Henry. À partir de là, il n'y a pas grand-chose à faire. AJ Brown est à 112 yards avec un superbe touchdown à une main. Ces deux gars sont merveilleux, ils ont déroulé. Même s'ils n'ont toujours pas de pass rush, aucun sac contre les Jaguars. C'est presque moi ce qui ressort le plus pour moi de ce match, au sens où il n'y avait pas grand-chose à apprendre sur l'attaque qui a déroulé. Ils étaient juste trop forts. Mais ça reste quand même une défense qui est pas hyper incisive, Raphaël.
On va faire un peu de répétition, j'ai envie de dire, on le dit depuis 14 semaines hein, quasiment, mais ça reste le défaut majeur de cette équipe, et en tout cas de cette défense, c'est ce pass rush, cette difficulté à mettre la pression sur le quarterback adverse. Ça peut potentiellement être leur plafond de verre cette saison en playoff, s'il y a playoff, mais bon, ils sont quand même bien partis pour ça. Oui. Après sur l'attaque, je te rejoins, ça déroule donc un visage assez typique de ces Titans des dernières semaines, j'ai envie de dire.
Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match en l'occurrence. Grégory, je vois que tu as une petite moustache qui repousse. Est-ce que c'est pour célébrer le retour de Garner Minshew, 18 sur 31, 178 yards, un touchdown?
Je pense que c'est espoir. Ouais, en plus il rejoue titulaire. Enfin,
oui, ça y est.
Bon, mais après, va falloir qu'il rassure, hein, parce que a priori, il est mal parti pour garder son poste l'année prochaine. Mais écoute, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a mis Mike Glennon en titulaire si Gardner Minshew était opérationnel. Mais ça fait partie des nombreux mystères depuis que Doug Marrone est aux commandes. Donc voilà. Oui, non, il y a rien à dire sur ce match-là. En effet, on peut essayer de tirer des enseignements, mais il y a deux classes d'écart et bon, c'est pas spécialement contre les Jaguars que tu peux tirer énormément d'enseignements en l'occurrence.
Alors passons aux Rams 24, Patriots 3. Là encore, les Patriots ne sont pas mathématiquement éliminés de la course au play-off, mais il doit leur rester quelque chose comme 5 ou 10% de chance si j'ai regardé les probabilités. Domination totale des Rams en défense, les Patriots limités à 220 yards, 6 sacs encaissés par Cam Newton et Jared Stidham, 4 pour Newton, 2 pour Stidham, 186 yards au sol pour les Rams avec 171 pour Cam Akers. On va commencer par ça. S'il y a une attaque au sol, ces Rams, ils vont commencer à être très très durs à sortir en play-off.
Oui, bah en effet, oui, c'est assez complet depuis le début de la saison. C'est sûr qu'il y avait ce backfield de comité qui faisait que un coup c'était Brown, un coup c'était Anderson, un coup c'était Akers. Akers a été drafté relativement haut en deuxième tour l'année passée, ouais. Donc ça reste quand même un projet pour prendre la suite de Todd Gurley. S'il montre les bonnes dispositions qu'il a montrées jeudi, oui, en effet, ça peut être tout bonus pour Los Angeles. Bon, il faudra être, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faudra être régulier sur 60 minutes. Mmh. Du coup, mais en tout cas, oui, non, il y a quand même beaucoup de paramètres. Offensivement et défensivement, ils ont posé quand même pas mal de problèmes à cette équipe des Pats.
Rams, Raphaël, il commence à. Oui, Rams, Raphaël. Non, mais ils ont l'air bien avec ce jeu au sol, parce que tu limites l'impact de Goff et là, t'es pas mal, quoi.
Oui, oui, ils sont sur une bonne dynamique. C'est mieux offensivement. Défensivement, ils arrivent à maintenir leur bon début de saison et le cap où on était un peu étonné par une aussi bonne défense de Los Angeles. En tout cas, ils arrivent à maintenir ce cap. Donc là, c'est forcément. Le tout dans le tout avec ce jeu au sol que McVay arrive à utiliser à bon escient, ça ne fait que permettre à Goff d'être dans la bonne situation. Enfin, c'est une défense quand même des Patriots qui est pas mauvaise en plus cette saison, donc ils font une prestation assez établie de ce niveau-là. Enfin, une défense des Patriots qui avait quand même bien bloqué les Cardinals il y a encore une semaine ou deux. J'ai un petit trou là-dessus sur la date, mais bon, c'est une bonne nouvelle pour la suite et mine de rien, ils sont pas, enfin, j'ai plus le tableau en tête, mais ils peuvent encore accrocher la tête de série en NFC, non?
Ils sont troisième actuellement de la conférence, et du coup, je ne veux pas te dire de bêtises, donc je vais vérifier. Ils sont troisième de la conférence, ça je m'en rappelle, et ils sont à un match des Packers et des Saints, donc mathématiquement, clairement, ils sont encore en course pour la tête de série numéro 1, tout comme Seattle, hein, qui a le même,
oui, oui,
le
bien
même
sûr,
bilan.
Oui.
Voilà, c'est les deux qui peuvent encore taquiner tout ça. Les Patriots, en un mot, on reconstruit par où? Parce qu'on va commencer à penser à l'intersaison.
Par la table, je crois, non?
Oui. Ça semble bien. Non, mais la priorité numéro 1, c'est de trouver un quarterback ou.
Oui, oui, parce qu'on a encore vu Cam Newton. Bon, c'est. Alors, j'ai jamais été un grand fan du style de jeu de ce joueur-là, mais voilà, je vais pas me répéter juste pour le plaisir de le faire. Mais voilà, malheureusement, ce qui pouvait être un de ses atouts par le passé, le jeu extrêmement physique à la course, tout ça. On voit que maintenant ça devient un petit peu rédhibitoire et quand il doit compenser par le jeu à la passe, voilà. Parce que malheureusement, son pick six arrive juste après l'interception de Miles Bryant qui aurait pu permettre justement aux Patriots de récupérer un tant soit peu de momentum. Donc, ouais, je ne sais pas ce qui va être décidé en l'occurrence, mais je ne suis pas sûr que Cam Newton soit vraiment un projet à court ou à moyen long terme désormais pour les Pats.
Bon, Raphaël, le quarterback aussi, on est d'accord.
Je sais pas si c'est la priorité suivant le marché oui. Et la situation dans laquelle tu te trouves à la draft. Je j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir beaucoup d'argent en masse salariale. À mon sens, la priorité avant même un quarterback, c'est des receveurs, parce que tout quarterback que tu feras venir dans cette équipe, je veux bien, mais à qui il lance le ballon à l'heure actuelle, ça me pose. Enfin, on est quand même en train de voir une saison où toutes les meilleures équipes de la ligue ont une, deux, voire même trois bonnes menaces aériennes. Ouais. Et à l'heure actuelle, c'est pas ce qu'ont les Patriots. Donc, tu peux avoir mieux que Cam Newton. J'ai pas de doute là-dessus. Mais le delta entre Cam Newton et ton prochain quarterback, il devrait être très, très important si tu n'améliores pas les squads de receveurs. Donc, moi, j'irais même plus vers les receveurs d'abord.
Non, mais oui,
et voir ce que tu peux trouver. Voir ce que tu peux trouver. Parce que, bon.
T'as raison. Parce que même Brady, avec les receveurs de l'an dernier, ils s'en sortaient pas. Donc, c'est vraiment la priorité, en effet. Seahawks 40, Jets 3, la formalité de la semaine. Wilson est à 21/27, 206 yards, 4 touchdowns, une interception. Geno Smith est rentré avant la fin du troisième quart-temps. Tout le monde aime trop les Jets, visiblement. Les Jets ont gagné 185 yards. Les Seahawks en ont gagné 410. Je pense pas qu'on va s'apesantir là-dessus, grosso modo. On n'a pas appris grand-chose. Ni sur les uns ni sur les autres. À part que Jamal Adams a le record de sacs maintenant pour un defensive back avec 8,5 sur une saison. Voilà. Et Sam Darnold a pris 3 sacs. Il est à 14/26, 132 yards. Bon, c'est pareil, je crois que, à moins que quelqu'un pense qu'il y a quelque chose à tirer de Sam Darnold d'ailleurs et qu'il faut le relancer absolument dans une autre équipe. Moi, j'en ai parlé dimanche dans le fauteuil. Si vous voulez lui donner une destination, c'est maintenant.
Ah, pourquoi tu penses qu'il est cramé déjà?
Moi, je pense que. Il n'a pas tant montré que ça, tu vois.
Ouais, mais regarde, Tanei, il a bien rebondi.
C'est l'exemple que les gens m'ont donné sur le chat.
Je l'ai pas vu faire beaucoup de saisons complètes d'Arnold depuis son arrivée à New York.
Ouais, bah ça fait partie des problèmes justement parce que ça fait pas. Alors c'est pas de sa faute s'il a chopé la mononucléose, hein, mais.
Bah si, un peu quand même, mais.
Oui, en plus.
Non, mais c'est un peu de sa faute quand même. Enfin,
c'est pas marqué dessus, tu vois.
Bah, il est pas obligé d'aller embrasser la première michto du bar.
Non, mais moi, on me dit tout le temps, ouais, c'est le contexte, il a pas de chance, c'est pourri, etc. Tu vois, par exemple, Joe Burrow, il était dans un contexte quand même pas super reluisant cette saison, et il y a des moments où je le regardais.
Ouais,
je me disais,
il a fini blessé, ouais. Bon exemple, ouais,
non,
Mathieu.
Non, mais quand je le voyais jouer, je me disais, c'est un quarterback NFL.
Oui, mais Arnold, au début, tu voyais des choses aussi.
Ouais, j'ai vu des choses, tu voyais deux drives par match de temps en temps, jamais des matchs complets ou des trucs. Moi, franchement.
C'est l'argument qu'on m'avait donné l'année dernière. On m'a dit quand Sam Darnold est revenu, il finit à combien? 7-5?
Bah, écoute, je lui souhaite, hein.
Oui, c'est vrai, ouais, un truc comme ça.
Je lui souhaite. Je lui souhaite. Mais ce sera pas le premier quarterback sorti du USC, drafté au premier tour, qui était surcoté et qui, au final.
Oh là là, le nouveau Mark Sanchez. Ah bah, vas-y, Alain, tu peux le dire.
Bah, Mark Sanchez, Matt Lennard. Enfin, tu vois, il y en a eu quelques-uns quand même, hein. Donc,
Je pense que c'est la référence, Jets, mais bon. Bah, Lennard, il a pas montré grand-chose, hein.
Ah bah, non.
À part essuyer les chaussures de Kurt Warner à Arizona, je l'ai pas vu faire beaucoup de choses.
C'est un beau rôle, hein. C'est un beau rôle.
Mais voilà. Donc, je dis juste que ce serait pas le premier, premier tour de USC un peu surcoté.
Certes, après, ça serait pas étonnant de voir, vu la situation, la difficulté de trouver des quarterbacks dans cette ligue, ça serait vraiment pas étonnant de trouver une équipe tenter le coup pour le relancer, franchement.
Parce que là, franchement, il y a rien. On rappelle quand même que la semaine dernière, ils mettent 30 pions aux Raiders. Alors, je veux bien, la défense des Raiders, on en a parlé tout à l'heure.
Écoute,
bon, il n'a pas été mauvais la semaine dernière.
Je l'ai dit.
On va
pas épiloguer sur les Jets. On a encore beaucoup de matchs à faire. Je dis juste, je lui souhaite, mais je commence à douter.
Allez. Voilà.
Okay. Lions 24, Packers 31. Les Packers sont champions NFC Nord. La démonstration d'Aaron Rodgers continue. 3 touchdowns à la passe, 1 au sol, pas d'interception. Devante Adams a 7 réceptions et 115 yards, encore une fois. Bonne ligne. En attaque, pour le coup, il y a les Chiefs dans un autre monde, mais il y a les Packers derrière maintenant, hein. Raphaël, je te vois hocher la tête.
Oui, non, t'as raison. Là, le système, on va dire, Matt LaFleur roule vraiment très bien en cette deuxième année. C'est beaucoup plus propre. On l'avait mentionné aussi. Il y a ce côté où Aaron Rodgers accepte plus de faire bouger les chaînes, comme on dit, de jouer des passes intermédiaires et un peu moins le big play. Et au final, tout le monde y gagne. Lui particulièrement, et l'attaque, et avec un receveur comme Davante Adams qui a une palette de routes, de tracés capable de faire et de le faire très bien, ça aide forcément cette équipe. Donc, comme tu l'as dit, en attaque, ça roule. Reste cette défense qui, à mon sens, doit encore passer un niveau pour vraiment les voir prétendants au titre final.
Oui, c'est sûr que pour leur faiblesse qui est la couverture, enfin la défense du jeu au sol, là, il n'y avait pas gros test. A priori, on ne peut pas en tirer de grandes leçons parce que Détroit, ce n'est pas tout à fait la spécialité. Il y a eu du pass rush, ils ont saqué 4 fois Matt Stafford. Mais c'est vrai que, mine de rien, les Lions sont restés dans le match une bonne partie du temps. Il a fallu attendre le dernier quart, hein, pour que Green Bay se détache vraiment. Grégory, est-ce que tu y as vu une leçon particulière, ou est-ce que c'était vraiment juste le boulot qui
est ouais, non, j'ai vu à peu près le même scénario qu'au match aller, avec une équipe de Détroit, en effet, qui leur a donné un peu de fil à retordre, mais au fur et à mesure, bon, on a quand même vu que Green Bay était peu complet et un peu plus rassurant. C'est vrai que Aaron Rodgers dégage vraiment une telle facilité en ce moment que c'est compliqué de les stopper. Petite alerte quand même, pénalité. Je crois qu'il y a 12 flags sur ce match pour Green Bay, sachant qu'ils n'ont pas non plus une opposition monstre en phase 2, en tout cas a priori sur le papier. Donc voilà, après ce sera peut-être à surveiller dans l'optique des playoffs encore une fois, mais voilà, c'est le bon moment pour se remettre en confiance et essayer de récupérer cette première place qui pour l'instant entre guillemets leur tombe dans les bras de par le résultat des Saints.
C'est vrai.
Mais en tout cas, c'est tout bonus.
C'est vrai qu'en effet, la tête de la NFC a changé aussi, puisque les Packers sont passés devant les Saints. Les Packers qui n'auront peut-être pas à craindre les 49ers en playoff au moins cette année pour se faire marcher dessus, puisque les 49ers ont perdu 23-15 contre Washington. Washington qui passe en tête de la division NFC Est sans marquer le moins de touchdown offensif, puisque les touchdowns, c'est un retour de fumble de Chase Young et une interception retournée pour un touchdown de Cameron Curl. Ça a porté le score à 23-7 dans le troisième quart. Ça a tué le match. Bon, on peut dire que c'est une équipe défensive. je pense, cette équipe de Washington. Non, mais voilà, ils sont portés par Chase Young, hein, 6 plaquages, un sac, un plaquage pour perdre, 2 passes défendues, 2 quarterbacks, hit, un fumble provoqué, un fumble recouvert, un touchdown. C'est une très très longue ligne de stats. Mais ils vivent que par cette défense.
J'irais même plus loin, par cette ligne défensive et ce front seven hein, qui est vraiment un niveau, parce que tu l'as dit, donc Chase Young, mais il y avait Montez Sweat, le tour numéro, enfin leur premier tour de l'an dernier. Tu as Daron Payne aussi, gros niveau. Enfin, voilà, tout le monde dans ce front seven est hyper boosté. Et du coup, en termes de. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, mais leur défense commence un peu à me faire penser aux 49ers l'an dernier, qui avaient un front seven très dominant et qui, du coup, aidait énormément le backfield défensif.
Greg, il fait des yeux énormes.
Qui aidait Washington le backfield défensif.
Super Bowl, Raphaël ?
Non, pas à ce niveau-là. Non, parce que la différence, c'est que Washington.
C'est pas la même attaque. Hein.
Voilà, c'est ça. San Francisco a un génie en attaque sur le banc. Au côté Washington, je crois pas qu'on soit à ce niveau-là. Donc, c'était plus sur l'aspect vraiment défensif avec ce front seven dominant qui facilite le taf des arrières défensifs. Que je trouve pas, pourtant, en dehors de Kendall Fuller peut-être, mais globalement, je trouve pas non plus incroyable. Donc, défensivement, ils ont la main chaude, tant mieux, mais.
Oui, bon. Offensivement, il n'y a rien. Voilà. C'est sûr que là, pour le coup, ça ne lui arrive pas souvent, mais par exemple, Jimmy Garoppolo est une stratosphère au-dessus de Dwayne Haskins, rien que si on veut faire la comparaison avec les 49ers de l'an dernier. Donc, oui, Dwayne Haskins, bon, Antonio Gibson, le coureur, n'était pas là. Ron Rivera dit avoir vu du progrès chez Dwayne Haskins, qui est rentré en relève de Alex Smith, touché à la jambe. Mais voilà, Grégory, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Washington gagne avec 193 yards en attaque. Donc, San Francisco est trop juste. En face, c'est Nick Mullens. Deebo Samuel est encore blessé littéralement sur son premier ballon. Mais c'est vraiment très limité pour Washington, ce plan de jeu, quoi.
Ouais, bah, ça m'a beaucoup rappelé la première semaine qu'ils gagnent contre Philadelphie. En gros, ils n'avaient rien montré. Et en effet, sur 2-3 actions clés en défense, ils gagnent. Bon, ça fait au moins 2/5, hein. Ou grâce à la défense, ils gagnent. Bah écoute, en attendant, si ça peut leur permettre d'aller en playoff, je pense qu'ils s'en contenteront. Mais oui, ça peut paraître quand même un petit peu léger, surtout qu'il va y avoir notamment, alors ils jouent les Eagles, je crois, en dernière semaine, qui ont l'air de se réveiller comme d'habitude au mois de décembre. Donc,
ils jouent Seahawks, Panthers, Eagles, hein, donc ils peuvent perdre les trois. Hein.
Ouais.
Ça va
oui,
pas être...
oui.
Moi, je jure plus de rien dans cette course à la NFCS, de toute façon. C'est...
Ah, bah, surtout vu le résultat qu'il y a, parce que, enfin, voilà, c'est moins une surprise que Washington gagne à San Francisco, mais quand on se rappelle notamment des upsets des Giants à Seattle, de Dallas à Minnesota, on se rend compte que ils gagnent pas beaucoup, mais quand ils en gagnent, ils font pas semblant. Donc.
ils gagnent des matchs en ce moment, hein, les équipes de la NFCS, mais pas ceux qu'on attendait. Donc, là, les Eagles viennent de taper aussi les Saints, hein, cette semaine, donc bon. Et pendant ce temps, du coup, les Giants retombent sur terre. Giants 7, Cardinals 26. Les Cardinals qui ont relancé leur attaque, on avait dit que c'était un peu la défense des Giants en forme contre l'attaque des Cardinals en galère, c'est l'attaque des Cardinals en galère qui gagne. Kyler Murray 24/35, 244 yards d'un touchdown, 159 yards au sol pour l'équipe, 136 yards à la réception pour DeAndre Hopkins. Arizona menait 20-0 dans le troisième quart, donc il n'y a pas eu de match. Ça fait beaucoup de bien aux Cardinals. D'ailleurs, je parlais de l'attaque, 390 yards pour Arizona, 159 pour les Giants. On a dit que Washington avait une mauvaise attaque, mais les Giants se sont quand même donné du mal pour rivaliser. 3 ballons perdus. 22 first down à 10 pour Arizona, 5 sacks pour Hassan Reddick. Je vous fais pas toutes les stats, mais c'est pareil en termes de sortie ratée offensive. Alors Daniel Jones avait l'air de tirer la patte, mais ça ressemble à une petite rechute. Ouais, il y a 3 fumbles dont un perdu. Ça annule pas toutes les bonnes choses qu'on a vues cette dernière semaine.
Et en plus. Non, mais j'ajouterais que, comme tu l'as dit, en plus sur l'attaque des Giants, le fait que Daniel Jones, sans doute un peu blessé encore, ne puisse pas sortir de la poche, courir, parce qu'on a vu, ça avait été un peu un des éléments moteurs aussi de cette attaque depuis le début de saison, c'est les schémas dessinés, on va dire, pour que Jones ait quelques courses, gagne quelques yards là-dessus. Là, t'as aucun truc, t'as aucune course à annoncer pour lui, donc je pense que ça limite aussi un peu son jeu à l'heure actuelle. Donc voilà, et puis mais après, c'est pas non plus une prestation très étonnante de l'attaque de New York. Hein. Les cibles, c'est un peu. Voilà, les cibles, c'est compliqué. Jones est limité. À partir de là, bon.
Greg Hassan Reddick, il était dans une grande soirée ou alors ils ont trouvé leur deuxième pass rusher, les Cardinals ?
Non, depuis le début de la saison, j'ai envie de dire c'est une bonne surprise. Hein. Faut pas oublier que c'est un ancien premier tour qui avait un petit peu déçu. Hein. Je crois que c'est notamment pour ça qu'ils vont chercher Isaiah Simmons, le linebacker de Clemson l'année dernière. Et on voit que depuis le début de la saison, alors que pourtant il y a toujours ce petit syndrome de l'année contractuelle, il me semble pas que ce soit son cas. Il a l'air quand même d'avoir trouvé un certain rythme, des assignations en tout cas qui lui correspondent un peu plus pour la deuxième saison de Vance Joseph comme coordinateur. Donc ça concrétise en tout cas sa belle saison du côté des Cardinals. Mais ouais non, il a contribué dans un match où en effet vous l'avez dit, l'attaque des Giants a été muette du début à la fin.
L'attaque d'Arizona, ça te rassure du coup, Grégory? Ils ont eu un peu de mal hein, quand même ces dernières semaines. Là, ça repart bien.
Oui. Bah, au moins, oui, comme tu le disais, ça a été un peu plus compliqué. Raph parlait notamment de la prestation sur le terrain de Foxborough tout à l'heure. Là, bon, voilà, c'est sûr qu'ils ont... ils ont fait le taf. Ils n'ont pas été aussi impressionnants que la défense, à mon sens. Mais encore une fois, il y a un Kyler Murray qui est capable de sortir de mauvaises situations. Bon, Hopkins, on ne le présente plus. Kenyan Drake a bien apporté une certaine alternance au niveau du jeu au sol. Donc, ouais, non, ça peut être intéressant. Ça les relance en tout cas parce qu'ils étaient vraiment dans le doute après leur récente défaite et leur fiche de 6-6. Là, en tout cas, voilà, ils reprennent un petit peu la main sur cette 7e place. Et voilà, à eux maintenant de finir le boulot.
Retour à la lutte dans la NFC Est, Bengals 7, Cowboys 30, la vengeance dans le Didalton qui bat son ancienne équipe. Alors ça claque comme ça de dire vengeance, mais les Bengals ont perdu le ballon sur les trois premières possessions. Dallas menait 17-0 après ça, c'était terminé. Ils ont une chance, je crois, infinitésimale d'arracher la division, je suis même plus sûr. Je crois que oui, parce qu'ils sont tous... il faut qu'ils gagnent tout, grosso modo, hein, pour aller au bout.
Ils sont à un match, je crois, de Washington.
Ouais, bon, après, ils ont gagné que 272 yards en attaque contre les Bengals. En fait, ils ont gagné moins de yards que les Bengals, d'ailleurs, qui en ont gagné 309. Donc, ça reste quand même des Cowboys très faiblards. C'est contre une équipe très faible qui viennent de gagner. On est d'accord qu'ils ne sont pas relancés plus que Philadelphie ou Washington ou New York. Bon, ça hoche de la tête, non, tous les deux.
Non, tu l'as dit. Hein. On va retenir du côté de Dallas qu'en effet, il y a eu des actions décisives en défense, hein, ce qui n'a pas souvent été le cas cette année.
C'est vrai.
Bon, le suspense, tu l'as dit, a été tué quand même assez rapidement. Et il n'y a tellement pas d'attaque chez les Bengals. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose quand il y avait Burrow. Là, maintenant, accrochons-nous jusqu'à la fin de la saison. Quoi.
Raphaël, un mot ou je passe au suivant?
Passe au suivant, Greg a tout dit.
Buccaneers 26, Vikings 14. Les Vikings perdent de 12 points, donc ils ne vont pas trop regretter que leur kicker ait raté 3 field goals et un extra point, puisque 3 fois 3, 9 plus 1, 10, donc ça va, ça passait quand même. les Vikings étaient loin d'être ridicules, quasiment 40 minutes de possession, plus de yards, mais les équipes spéciales en galère, un ballon perdu, ça fait défaite. C'est cruel quand même sur la physionomie du match, Raphaël?
Ouais, je trouve ça un peu cruel parce qu'ils passent quand même... Bon, c'est toujours un peu facile de refaire le scénario du match, tout ça, mais je les trouve vraiment pas si loin que ça de Tampa Bay sur l'ensemble de la prestation. T'as même l'impression que par moment, ils auraient pu pas repasser devant au score, mais enfin voilà, vraiment tutoyer les Buccaneers. Et c'est presque eux, finalement, qui sont le plus réguliers, j'ai envie de dire, sur l'ensemble du match, cette équipe de Minnesota en attaque. Parce que de l'autre côté, tu vois, Tampa Bay, c'était quand même très par intermittence l'attaque. On avait une ou deux bonnes séries de Tom Brady. Après, c'était une ou deux mauvaises séries, une ou deux bonnes. Enfin, donc, ils étaient presque plus réguliers dans ce match. Bon, au final, ils perdent un peu. Je pense que les field goals aussi, à chaque fois, ça tue un peu le momentum. Parce qu'en plus, tu permets à l'adversaire de repartir un peu plus proche, hein, mine de rien. Enfin,
en plus,
dans une meilleure position sur le terrain. Notamment sur le field goal raté de 54 yards, c'est quand même pas mal pour faire repartir l'équipe adverse. Bon, voilà. Mais il manque quelques petits trucs à cette équipe des Vikings, mais c'est quoi qu'il arrive, c'est mieux qu'en début de saison. Donc bon.
Grégory, grosse occasion ratée pour Minnesota.
Ouais. Alors c'est sûr que, en effet, Raph le disait, ils ont montré des bonnes choses, notamment en début de match. Mais c'est compliqué avec une telle ligne offensive. Hein. On se répète souvent cette saison avec Minnesota, mais autant en défense, ils ont réussi à colmater la perte de leur joueur star, autant en attaque, quand ça casse bien comme il faut. Quoi. Et malheureusement, bon, Dalvin Cook ne peut pas tout faire. Et là, Kirk Cousins s'est un peu laissé à l'abandon sur le pass pro. Donc, c'était compliqué sur le long terme de battre une équipe de Tampa qui est certes un peu plus en dilettante ces dernières semaines, mais qui a quand même suffisamment de talent pour réussir à maîtriser cette équipe.
Oui, il y a 6 sacs hein, pour les Buccaneers quand même, avec quelques grosses actions sur la fin de match qui font la différence aussi. Au sol, il y a 107 yards pour Ronald Jones, mais qui s'est cassé le petit doigt, donc on ne sait pas s'il sera disponible pour le prochain match. Et Brady, qui a quand même encore un bras, quand il a le temps, il y a un touchdown de 48 yards. Il finit par en lancer quelques-unes en profondeur dans le système Bruce Arians. Grégory.
Heureusement, non ?
Bah oui, là il y a
heureusement, il y a que ça, donc
ouais. Il a pas le choix, hein, donc faut les lancer. Donc à un moment donné, il vaut mieux que ça tombe sur le bon maillot de temps en temps, quoi.
Il continue vers les playoffs en tout cas. On enchaîne avec Bears 36, Texans 7, un match du supplice à la fois pour les téléspectateurs et pour Deshaun Watson, hein, surtout, qui a été jusqu'à prendre un grand coup dans les valseuses pour le bien de la cause, mais ça n'a pas aidé non plus. Il aura vraiment tout essayé. C'était donc pour rien. La défense des Texans a ouvert les portes en grand. Chicago avait la pire attaque au sol de la ligue. Eh ben, ils ont gagné 169 yards au sol. Mitchell Trubisky a réussi 3 touchdowns. On aurait dit Peyton Manning. C'était magnifique. Matt Nagy avait l'air d'être Eric Bieniemy. Belle sortie des Bears, mais la défense des Texans est officiellement porté disparu.
Ah bah là, ouais, c'est...
officiellement.
Oui, officiellement, oui, elle l'était depuis un petit moment, quoi. Ouais, l'alerte enlèvement avait été bien annoncée bien plus tôt. Écoute, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de besoins partout maintenant. C'est assez compliqué.
D'ailleurs, ils ont aussi la pire attaque au sol statistiquement maintenant, puisqu'ils ont permis aux Bears de sortir de la dernière place. Donc désormais, c'est les Texans qui ont la pire attaque au sol de la ligue. Jolie chasse et croisée.
Ah, mais c'est ça, la défense est horrible et l'attaque en plus est décimée, parce que les deux stars, à part Deshaun Watson, c'est donc Buddy Howell et Chad Hansen. Vends-moi du rêve.
Et donc, t'as oublié Keke Kuti?
Oui, enfin, Keke Kuti, on le connaît globalement. On commence en tout cas à le connaître. Après, Howell et Hansen, c'est quand même pas censé être tes deux tauliers de leur poste respectif. Donc, c'est sûr que ça en dit un petit peu long sur la fin de saison longue que sont en train de traverser les Texans.
Bon, et on est d'accord que ça relance pas totalement l'attaque de Chicago et que ça ne relance pas encore Mitchell Trubisky et Matt Nagy. On va attendre un peu pour ça, Raphaël.
Oui, on va attendre totalement.
Panthers 27, Broncos 32, Drew Lock, franchise quarterback, qui a fait taire son hater principal, Raphaël Masmejean, il l'a dit à la caméra à la fin. 21 sur 27, 280 yards, 4 jantes. C'est bon, t'es convaincu, Raphaël?
Je crois même qu'il a balancé un You Like That, Raphaël, ouais. Mais bon, c'est qu'un détail. Il avait déjà montré des trucs un peu plus intéressants la semaine dernière, là, c'est un peu mieux. Je sais pas, j'ai un peu peur que ce soit ce genre de quarterback qui te fait 2-3 bonnes prestations à chaque fois en fin de saison, tu dis ah putain c'est le bon, je vais pas changer de main tout de suite, et puis tu perds 3-4 ans comme ça. Bon, après il y a des quarterbacks qui mettent 4 ans, 5 ans à émerger, donc de toute façon là les Broncos vu leur situation, ils auront pas a priori pas mieux à s'offrir. Donc continuons. Écoute, hein,
moi j'ai peur qu'il soit soit à l'aise parce qu'il est dans le méga garbage time de la saison. Il était déjà à l'aise dans le garbage time des matchs en début d'année. Donc c'est vraiment à confirmer. Au moins il y a des éléments autour. Il y a des receveurs de qualité, des coureurs de qualité. Ça commence à se mettre en place quand même du côté de Denver. Carolina, c'est plus en difficulté. Grégory, ils font un match sage. J'ai envie de dire, il n'y a pas de ballon perdu, mais il n'y a pas de coup d'éclat non plus. Donc comme ils ont mis du temps à rentrer dans le match, qu'ils ont loupé le coche à la fin, il manque un peu l'étincelle pour Bridgewater et cette équipe.
C'est ça, c'est-à-dire que Denver n'a pas volé sa victoire, loin de là, mais malgré le fait que ce soit une équipe qui perd beaucoup le ballon depuis le début de la saison, là en tout cas ils sont tombés sur une équipe en face qui en effet est globalement propre dans cet exercice-là, mais qui a du mal à mettre un certain rythme. Et en première mi-temps, voilà, l'attaque de Carolina a rien montré de vraiment concret. C'est surtout le fumble de Jeremy Chin qui permet, en l'occurrence, aux Panthers de rentrer dans la partie. Mais derrière, voilà. Et puis bon, on s'interroge sur Drew Lock, mais ouais, le backfield défensif, ça continue de montrer que ça reste un point faible en défense. Il y a le pass rush qui montre de meilleures choses ces dernières semaines, de moins pire en tout cas. Mais ouais, il y a un Rasul Douglas notamment qui a été humilié pendant pas mal de temps par KJ Hamler. Sur l'équipe spéciale, ils ont été battus aussi. Donc ouais, c'est un match où on voit que le travail, il y a encore beaucoup de boulot pour réussir à optimiser cette équipe des Panthers qui passe souvent pas loin de la victoire, mais qui en l'occurrence en est à 7 défaites de suite. Je vais pas me tromper
sur la dynamique, mais ouais, donc on se rend compte que voilà, l'année de transition était bien celle qui est celle à laquelle on s'attendait pas.
On termine avec les Chargers 20, Falcons 17. S'il y a bien une équipe qui n'allait pas se faire offrir une victoire par les Chargers, c'était les Falcons. 17 partout quatrième quart, interception des Falcons, interception des Chargers, non, interception des Falcons, field goal des Chargers finalement. Matt Ryan, est-ce que ça sentirait pas un petit peu le sapin et pas seulement parce que c'est la période de Noël? Raphaël, je sens que tu es un peu hésitant sur la cause de Matt Ryan ces derniers temps.
Belle allusion. Ouais, l'an dernier, j'avais vraiment l'impression que le problème numéro un, c'était cette ligne offensive, etc. Bon, cette année, je n'irai pas jusqu'à dire que la ligne offensive est sensiblement meilleure, mais je ne sais pas. C'est vrai que c'est peut-être un peu subjectif pour le coup, mais à coup de pas. Mais dans l'impression, dans ce qu'il fait sur le terrain, dans ce qu'il réalise, je le trouve moins précis, je le sens moins véloce dans les lancers, je le trouve un peu lourdeau dans la poche. Je ne sais pas. Je suis un peu embêté quand même par tout ce qu'il montre. Pourtant, il y a quand même des receveurs intéressants avec lesquels tu as fait. Je pense qu'il y a des facteurs qui ne l'aident pas, mais c'est vrai que là, je commence à me demander si Atlanta représente pour lui un bon environnement pour qu'une équipe puisse encore en tirer ce qu'il en reste. Et je pense qu'il en reste de moins en moins en Matt Ryan. Donc, voilà.
La parole est à la défense.
J'aimerais être en contradiction avec Raph, mais très concrètement, oui, il y avait la ligne en son temps. Je continue de penser que Dirk Cutter, j'allais dire a perdu le rythme. Je sais pas vraiment s'il l'a eu à un moment donné cette saison. Je pense que la première page Cutter Ryan avait déjà été honorable. Je suis pas sûr que c'était forcément un bon choix de le faire revenir en tant que cordeau. Hein. Il apporte pas forcément d'idées hyper nouvelles dans la NFL moderne. Mais ouais, c'est sûr que d'un point de vue mobilité dans la poche, d'un point de vue rapidité d'exécution, bon bah là, oui, en effet, on commence à accuser un petit peu les années. Et forcément, bah, quand la ligne est pas parfaite, bah, il suffit d'avoir une première feinte et puis bah t'es déjà sur le cul quoi. Donc il a un contrat et un salary cap au sein de la franchise qui fait que la question va forcément se poser. Ça dépendra de ce que va en faire le nouvel organigramme, mais je suis de moins en moins sûr de son retour l'année prochaine. Autant Julio Jones, je serais quand même très surpris qu'il le laisse partir. Mais Ryan, à mon avis, on va peut-être essayer de voir ce qu'on peut en tirer.
Et à l'inverse, Justin Herbert, 36 sur 44, 243 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Il continue sa progression et nous, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, premier top.
Top, j'en ai rapidement parlé, mais le cornerback de Miami, Xavier Howard, auteur déjà d'une superbe interception, donc pour l'action en soi, ça pourrait largement mériter un top cette semaine. Mais même globalement, on n'a peut-être pas beaucoup parlé cette saison de lui en particulier, mais il est vraiment à un très haut niveau. Il est, à mon sens, cette saison vraiment dans le top 5 à son poste. Donc voilà, c'est la confirmation déjà d'une belle saison l'an dernier. Et pourquoi pas, je serais pas choqué même qu'il arrive à obtenir une voix ou deux pour le titre de défenseur de l'année dans une belle défense qui a progressé. Donc voilà, pour le mettre en avant surtout.
Grégory.
Bah, il y a un TD de la Con Treadwell quand même. Non, je déconne.
Alors, vous allez me voler tous mes tops ou quoi?
Non, c'était pour la blague. Mais mon top, bah, c'est Hassan Reddick dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé de ses 5 sacs, mais il fait quand même 3 fumbles forcés en même temps. Donc voilà, je crois que c'était plus arrivé depuis 2002, un défenseur de Miami à l'époque. Donc franchement, c'est une sacrée performance. Ça va pas rêver tous les week-ends, très clairement. Et quand on en a parlé tout à l'heure, mais quand on voit d'où il revient, c'est quand même assez costaud. Donc c'était quand même à souligner dans une prestation plus qu'aboutie de la part de la défense des Cards.
Alors, moi, en top, à la base, j'avais la Con Treadwell pour la blague, mais du coup, Grégory me l'a piqué. J'avais Xavier Howard pour les 9 interceptions, dont une dans chacun des 5 derniers matchs, mais Raphaël me l'a piqué. Donc je vais me rabattre sur Aldon Smith quand même, qui marque le premier touchdown de sa carrière et qui signe un des plus beaux retours de la saison. Évidemment, tous les retours sont éclipsés par celui d'Alex Smith cette année, mais celui d'Aldon Smith est quand même pas mal. Il a quoi, 4 saisons blanches, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il a eu des problèmes d'addiction. Enfin voilà, c'est une belle histoire, un beau retour. Tant mieux pour lui, c'est un joueur avec un talent qui est quand même assez monumental. Donc tant mieux pour Aldon Smith. Ton flop, Raphaël.
Mon flop, ouais, c'est un peu facile, hein, mais les Texans, rappelons-nous quand même que c'est une franchise qui avait enchaîné les participations aux playoffs ces dernières années, alors sans aller au bout ni quoi que ce soit, mais là, la dégringolade de, alors les blessures n'aident pas forcément, mais la dégringolade de la gestion globale de cette équipe autour de Deshaun Watson, on a vu quand même ces dernières années des équipes qui construisaient intelligemment autour de leur quarterback en profitant de son contrat rookie. Là, quels sont les investissements intelligents pour accompagner Deshaun Watson? On se pose encore la question. Et tout est en train de payer. Enfin, ils sont en train de les payer cash. Et bon, va vite falloir redresser le bateau parce que sinon Watson est parti pour nous faire une carrière assez déprimante tout seul à Houston. Donc voilà.
Clairement. Grégory, ton flop.
Je suis très surpris que Raphaël me l'ait pas piqué, puisque après les deux putains de fade, il y a quand même eu l'épisode Anthony Lynn du week-end, quoi. Cette gestion de la fin de première mi-temps avec Anthony Kangle, son coordinateur offensif, parce qu'il a couru. Faut peut-être lui rappeler le rôle d'un head coach, parce que visiblement, il n'est pas au courant. Donc, on a quand même une action où on se retrouve avec Justin Herbert, n'importe quoi. Bienvenue aux fans de Formule 1. où il y a Justin Herbert qui est sur le point de snapper le ballon et qui calcule même pas que les équipes spéciales sont en train de rentrer sur le terrain.
Ben mais c'est ça aussi, tu vois, Anthony Lynn, il peut pas gérer le coordinateur offensif s'il gère
à ce niveau-là, franchement, alors je sais, on a même plus la force de taper sur lui parce que chaque week-end on se rend compte de choses aberrantes, mais là fallait vraiment qu'Atlanta leur donne le match, parce que vraiment quand on voit des actions comme ça, on se dit mais c'est fou, jusqu'au bout le mec va se faire passer pour un incapable, quoi. C'est quand même assez affolant et assez déprimant quand on est fan des Chargers.
Moi qui me disais on a un peu squeezé les Chargers cette semaine, au moins Greg remet les trucs en place.
C'est ça. ne me remerciez pas.
Écoute, moi je vais terminer avec le flop, ce sera les Raiders, puisque là je pense qu'on peut officiellement dire que hype parti trop tôt.
Tu quittes le bandwagon, c'est
officiel. C'est fini pour les playoffs en tout cas, donc voilà, c'est une petite tristesse pour moi.
Il y a du toujours. Est-ce que le flop c'est la Matéikers alors?
Non, mais voilà, il y a toujours un petit moment dans l'année, tous les ans, hein, où ma hype meurt. Bon, c'est plus ou moins tard. Avec les Jets, ils m'avaient fait le plaisir que ça aille très vite. J'avais pas souffert. Là, j'ai un peu espéré. C'était encore plus cruel. Voilà. Je pense que l'année prochaine, j'essaierai de me hyper sur les Chiefs. Je souffrirai moins. Tu vois, je dirais pendant les émissions de preview un truc genre les Chiefs iront en playoff. Ouais, tu vois. Ce sera moins dur pour moi. Parce que là, entre les Chargers au début du podcast, je m'en rappelle, il y a quelques années, tous les ans, j'étais hypé sur les Chargers. Après, ça a été les Jets. Après, maintenant, les Raiders. Et ils font tout ce que de me décevoir. Donc, je sais pas.
Il faut Raphaël, c'est les Falcons. Ouais, franchement, les gars, vous êtes bien.
Oui, c'est vrai. On a quand même annoncé quelques Super Bowls des Falcons.
C'est ça.
Il y en a au moins un dans la période. Hein.
C'est vrai.
Ouais, mais le Chargers Falcons, il est beau. Hein.
C'est vrai. Bon, voilà. C'est comme ça que se termine l'épisode 388 du podcast Touchdown Actu. Merci tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. On remercie Pierre, on remercie David de Thin Red Zone, Alexandre Guiraud, Thomas, Sylvain, Thierry, Sapousse, Scorma et Ronan. Merci à tous encore une fois de nous soutenir sur Tipeee. Les contreparties sont tout en route, je regarde sur mon bureau, oui, tout est à jour, toutes les lettres ont été postées. Merci à ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu sur Twitter et Facebook, à Touchdown Actu en entier sur Instagram, à Raphaël _ TDA pour Raphaël sur Twitter, à Thielo Radio ça pour Grégory, à Talin Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. Je remercie beaucoup Grégory et Raphaël. À très bientôt, messieurs.
Ciao.
À la prochaine.
Et très bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi pour la preview. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on